טוב, בעזרת השם, ברשות מר דאטרה, מונמי אסון אפוז, אבי מישל טוויטו, יפה לו כבוד, שקנה, פה צדיק רבי משה בן צריכה, אדראי, la présence de la Neshama, comme nous le savons, descend et se trouve dans ce monde au moment de la Hiloula. On appelle cela une Hiloula, en araméen, cela veut dire un mariage. Hiloula en araméen, pourquoi mariage? Parce qu'en réalité, le jour où le tzaddik descend dans ce monde, c'est-à-dire à chaque jour où il a disparu de ce monde, où il a quitté son enveloppe corporel, il redescend, il y a donc à nouveau un mariage, une hiloula, parce que le mariage c'est en réalité l'accouplement entre le corps et la neshama. La neshama c'est le côté masculin et le corps c'est le côté féminin. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Gemara Ishto Kegufo. La femme c'est comme le corps de l'homme, donc il y a un mariage à l'intérieur de nous-mêmes entre le corps et la neshama. Étant donné que la Neshama, elle quitte ce monde, quand elle revient dans ce monde, c'est comme si elle revêtait un vêtement de ce monde-là, et donc ça s'appelle encore une fois un mariage, comme si elle reprenait corps dans ce monde. Nous sommes dans une période entre Pessah et Shavuot, dans un mois qui est très important dans le judaïsme, puisque c'est le mois où tout l'édifice de la sainteté se dévoile. Les initiales du mois, Iyar, c'est Aleph Yud Yud Resh. C'est en réalité le début des noms de nos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Resh Rachel. Ça veut dire que nous avons ici un édifice complet qui vient d'une valeur suprême et qui descend dans ce monde pour aboutir à une concrétisation de la volonté divine dans ce monde, parce qu'il s'agit en réalité de faire le lien entre les mondes, et toute Torah qui ne prend pas en compte la réalisation de cette Torah est une Torah qui en réalité, chas v'shalom, qui reste dans le ciel, comme s'il y avait une énergie mais qui n'avait pas de corps. Le havdil elef havdalot, c'est comme du zera le batala. Et c'est pour ça que la Torah doit trouver son ustensile, son contenant, qu'on appelle la malchut, la royauté. Et donc, dans le mois de Iyar, il y a quelque chose de double, quelque chose d'extraordinaire, que pas beaucoup de gens savent. Vous savez que normalement, lorsqu'une année est embolismique, c'est le mois de Hadar qu'on multiplie. Mais il y a une exception qui confirme cette règle, c'est qu'à la sortie d'Égypte, on a rendu embolismique l'année de la sortie d'Égypte, mais pas avec le mois de Hadar, avec le mois de Iyar. Pourquoi? Parce que ce mois comporte en lui deux références. La première référence, c'est la possibilité de sortir d'Égypte. Et la deuxième référence, c'est la réception de la Torah. Et vous voyez que ce mois de Iyar, il est en réalité entre ces deux mois, le mois de la rédemption d'Égypte et le mois du don de la Torah. Et les Chachamim nous disent qu'en réalité il fait le lien parce qu'il a en lui les deux degrés. Et étant donné qu'il a les deux degrés, le premier degré c'est le fait de libérer la nation d'Israël. Donc le jour de Pessah, il a une connotation au niveau de la nation, c'est une libération nationale, c'est la première fois que le peuple d'Israël a eu son indépendance. Et la deuxième partie, c'est le côté de Kodesh, et ça c'est le don de la Torah. Donc nous avons en réalité dans le mois, et Malchut, la royauté, la Léoumiout, et la Torah qui est la Datiout. Ça veut dire qu'en réalité le mois de Iyar, depuis sa racine, il est Léoumi Dati. C'est-à-dire qu'il est, en réalité, faisons la jonction des deux, Et nous allons comprendre qu'en réalité, ce mois-ci, depuis la nuit des temps, a été prévu pour dévoiler en lui et la Torah et l'identité d'Israël. Ce n'est pas par hasard que pendant ce mois de Iyar, nous avons en réalité et Yom HaAtzmaout et Yom Yerushalayim, et en plus de cela, nous avons l'Agba Omer qui est la Torah, qui est le secret de la Torah, Rabbi Meir Baalanes, le Ramchal, et j'en passe. J'ai dit l'Agba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons dans ce mois quelque chose de double qui nous permet de toucher deux niveaux que malheureusement beaucoup de gens ont oublié durant les 2000 ans d'exil. Il y a un midrash qui fait un petit peu peur, qui dit Tzadikei hadorot lo yafe asitem. Kadosh Baruch Hu parle aux tzadikim de toutes les générations en leur disant, vous n'avez pas fait quelque chose de bien, c'est pas beau ce que vous avez fait. Sheshamartem et Torati velo shamartem et Malchuti. Vous vous êtes tous occupés de la Torah, mais personne d'entre vous ne se préoccupait de la rédemption du peuple d'Israël sur sa terre, c'est-à-dire de fonder un État. Et à Kadosh Baruch Hu, dans la mitzvah qu'il donne à Abraham Avinu, dans la promesse, Lech Lecha ve'Esra Legoy Gadol, en réalité, il nous donne une mitzvah, c'est de fonder un État. Pourquoi je dis fonder un État et pas seulement venir sur la terre? Là aussi, c'est caché une erreur, c'est que les gens pensent que venir en Eretz Israël, ça suffit, et ils vont réaliser la mitzvah de s'installer sur la terre. C'est faux. On peut habiter en Israël, mais s'il n'y a pas une souveraineté juive sur ce pays, ça ne s'appelle pas habiter en terre d'Israël, c'est comme si on habitait en exil. D'où est-ce qu'on le prend? De la Gemara. David Amelech habitait en Eretz Israël, c'est le roi d'Israël, et un jour il est sorti de Jérusalem et il est allé à Kiryat Gat. Et la Gemara, elle dit que David Amelech dit de lui-même qu'il a fait un jour dans sa vie de la Avodah Zarah. Pourquoi? Parce qu'il a quitté la terre d'Israël pour aller à Kiryat Gat où il n'y avait pas un roi d'Israël à cette époque, alors que Kiryat Gat est dans les frontières de la terre d'Israël. Et comment est-ce que dit David Amelech sur lui-même? Ki gershuni hayom minachalat Hashem. On m'a renvoyé aujourd'hui de la terre d'Israël qui est la nachala d'Akadosh Baruch Hu, be'emor li, en me disant lech avod Elohim acherim. Va servir d'autres dieux. Et de là, la Gemara va conclure, kol mishedar bechutz la'aretz domé kemish oved avodazar. Quiconque habite en dehors de la terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui fait de la avodazara, dans plusieurs endroits dans la Gemara, et dans le traité de Ketubot, et dans le traité de avodazara, et le Rambam qui a repris après cela, en disant qu'on n'a pas le droit de sortir de la terre d'Israël, si ce n'est que pour trois choses, et à condition d'y revenir. Moralité, nous sommes dans un mois qui est très important, et Baruch HaShem, à notre époque, on a eu la possibilité de voir se réaliser les paroles de nos prophètes. Vous savez que le monde a été créé et au centre du monde, Akadosh Baruch Hu a placé Adam Arishon. Adam Arishon, en réalité, ce n'est pas seulement un homme, c'est l'humanité tout entière et c'est l'histoire de l'humanité tout entière. Les Chachamim nous disent que l'humanité va se diviser en deux périodes. Et c'est pour ça que dans le mot Adam, vous avez trois lettres. Et le Dal était au milieu, entre le Aleph et le Mem. Le Aleph de Adam, c'est Adam lui-même, c'est le premier homme. Le Mem de Adam, c'est Mashiach. Et le Dalet, c'est David Amelech. Le Gaon de Vilna nous dit, je vais vous donner la date à laquelle la rédemption d'Israël dès la fin des temps va se réaliser. C'est très facile, il faut multiplier en fait par deux, le jour de naissance de David HaMelech. Or, David HaMelech est né en 2854. Et comme c'est le centre, David, il faut multiplier 2854 par 2 pour arriver à la période messianique. Ça fait 5708, c'est-à-dire 1948. En 1948 a commencé la rédemption finale du peuple d'Israël, et tout ça s'est inscrit dans le mot Adam, incroyable. Sans chercher quoi que ce soit d'autre, sans aller chercher autre chose, l'humanité tout entière, c'est Adam, David et Mashiach. Les Chachamim nous enseignent qu'il y a deux manières de lire le Homer. Il y a des gens qui disent, Hayom, Arba'a ve'esrim yom ba'omer. Et d'autres qui disent, Hayom arba'a ve'esrim yom la'omer. Quelle est la différence entre ba'omer et la'omer? Disent les Chachamim, ba'omer, tu fais référence à Pessah. Alors que la'omer, tu fais référence à Shavuot. Je veux dire qu'il y a dans notre vie deux perspectives de vision. Ceux pour qui il n'y a que la sortie d'Égypte, donc c'est Baomer, ils sont à l'intérieur de leur exil, et la seule référence qu'ils ont dans leur vie, c'est l'Égypte de laquelle je suis sorti. Ça peut être bien, mais ça peut être dangereux. C'est-à-dire la seule référence dans ta vie, c'est de quoi je me sauve. Et toute ta vie, tu ne fais que te sauver de quelque chose. Cette communauté ne me plaît pas, je la quitte. Ce pays ne me plaît pas, je le quitte. Ma référence, c'est quitter l'Égypte. Nous disent les Chachamim, ceux qui disent là, Omer, ils ne regardent pas seulement la sortie d'Égypte, mais ils regardent vers quoi ils vont dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont une référence positive et pas quitter quelque chose de négatif. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas toute la journée de mes traumatismes d'hier, mais je me tourne vers mon avenir pour voir le lendemain, pour voir la lumière divine de Chag HaShavuot. Rabotai, chacun de nous peut se reconnaître dans l'un des deux cas. Il y a des gens dans leur vie qui éteignent des feux toute leur vie. C'est-à-dire, ils sont toujours dans une situation pas très sympathique et ils arrivent à s'en sortir plus ou moins. Donc, ils sont toujours dans un Égypte, dans une situation d'Égypte de laquelle ils arrivent à sortir. Et il y a d'autres qui ne s'occupent pas en réalité de quitter le mal, mais qui vont vers le bien, qui vont vers la lumière. Pour arriver en terre d'Israël, il faut avoir les deux degrés. Et encore une fois, ces deux degrés se trouvent dans le mois de Iyar. D'un côté, nous avons une mitzvah de nous rappeler la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Égypte ne s'arrête pas à la sortie d'Égypte. Il y a marqué « Ve'otzeti etrem », mais à la fin, ça se termine « Ve'heveti etrem el admatrem ». C'est-à-dire que si ta seule référence est de sortir de France, de quitter la France, de quitter l'exil, tu n'as pas encore accompli réellement ta vie, parce que tu es toujours braqué sur ton traumatisme d'hier et d'avant-hier. En hébreu, quelqu'un qui est toujours relié à son passé et qui ne voit pas son avenir, il est lié à son passé. Le passé en hébreu se dit « avar » et les chachamim le traitent de « avarian ». Avarian, c'est pas seulement un type qui fait des bêtises, c'est quelqu'un qui est complètement dans le passé. Et dès que vous commencez à river toute votre vie sur ce qui s'est déjà passé, vous êtes en train de vieillir et chas v'shalom, vous êtes en train de vous rapprocher de la fin. Il faut tout le temps garder en mémoire que tu dois aller vers l'avenir. Et il y a un secret dans les lettres hébraïques. Il y a une lettre qui est secrète, elle s'appelle la lettre Vav. La lettre Vav, on l'appelle en hébreu Vav Hachibur. C'est la lettre du lien. C'est-à-dire à chaque fois que je veux dire toi et moi, je dis ata ve ani, ve, vav. Mais elle n'est pas que vav ha chibur, ça la plupart des gens le savent, elle est aussi vav ha hippur. Le vav de l'inversion. Comment? Eh bien si par exemple je parle du passé et je dis haya, si je place un vav devant le haya, ça devient un futur. Ve haya. Incroyable. Alors que, si je prends un futur et je dis « Yehi » et je place un vav devant, « Va Yehi » ça devient un passé. Nous disent les Chachamim, dans l'Agmara, à chaque fois que tu trouves « Ve-ha-ya » dans l'Agmara, c'est une connotation de Simcha. Pourquoi? Parce que tu as pris le passé et avec la lettre « Vav » tu l'as transformé en futur. Ça veut dire que quelqu'un qui voit le futur et qui croit dans son lendemain, il est en réalité dans la simcha. Alors que si tu prends le futur, Yehi, et tu lui mets un va pour le rendre passé, c'est la shon tsa'ar, c'est chas v'shalom, quelque chose qui te tire vers la déchéance et vers un état de dépression, chas v'chalila, et c'est une tristesse. Donc il faut bien comprendre que ce secret-là, c'est un secret qui est lié à notre lien dans la vie. Et donc nous, Baruch Hashem, selon la Kabbalah, nous disons Hayom, Arba ve'esrim yom, la Omer. Et pas Ba Omer, pour bien faire comprendre que nous avons une vision optimiste du lendemain, de quelque chose qui dépasse complètement l'ancrage de ce monde matériel avec toutes ses limites qui nous emprisonnent dans un système duquel on ne peut pas sortir. Vous connaissez l'histoire de la sortie d'Égypte. Vous connaissez l'histoire de l'Égypte. Et on a appris toute notre vie que le pharaon, c'était le roi de l'Égypte et qu'il ne laissait pas sortir les enfants d'Israël qui étaient à l'intérieur. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que la Torah nous raconte des histoires aussi basiques, bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur. Et en réalité, il y a une profondeur extraordinaire dans tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité l'Égypte? L'Égypte, en réalité, c'est une vision étriquée de ce monde où tu ne peux pas sortir du système de la nature et de ta logique humaine. Ça veut dire qu'en Égypte, tout le monde est esclave, y compris Pharaon. D'ailleurs, l'Égypte s'appelle Bet Avadim. Tout le monde, c'est la maison de tous les esclaves du monde, y compris le roi, qui est le roi des esclaves en réalité, qui lui-même est un esclave. Esclave de quoi? Eh bien, des limites de ce monde. Qu'est-ce que c'est que les limites de ce monde? Il y en a trois. Le temps, l'espace et la capacité d'un être, l'être lui-même. Est-ce que je suis prisonnier de ces trois degrés? Si je suis prisonnier du temps, eh bien, le temps, c'est moi qui vais le servir et non pas me servir du temps. Si je suis prisonnier d'un espace, je suis cloisonné dans un système et je ne peux pas bouger. Et si je suis limité dans ce que je suis, c'est-à-dire avec une incapacité, en tout cas c'est ce que je dis, de changer, quand tu dis à quelqu'un pourquoi tu te comportes de telle manière, qu'est-ce qu'il te répond? Je suis comme ça, c'est ma nature. En réalité, ça veut dire qu'il est emprisonné. Il est emprisonné dans sa nature. Nature vient du mot naître, c'est-à-dire que depuis sa naissance, il n'arrive pas à évoluer et à sortir de son propre petit système à lui. Donc à chaque fois que je vais le toucher, sa réaction sera toujours la même. Il est incapable de sortir de son propre système. Or la Torah vient nous enseigner quelque chose de très important. Pour étudier la Torah, il faut être capable de sortir de ton système. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que les Chachamim t'invitent à étudier, ils te disent d'abord, c'est Ulmav. Si tu ne sors pas de ton système, tu es incapable d'étudier quelque chose de nouveau parce que tu resteras coincé dans ton propre système de réflexion et limité dans ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui, donc limité dans tout ton système. Sortir de ce système-là, c'est Ulmad, là tu peux enseigner et tu peux étudier. Parce que tu es capable de sortir. Mon cher Rabbeinu, pour construire le temple du désert, pendant 7 jours, il le montait et il le démontait 3 fois par jour. Le saviez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faire une chose pareille? Donc, monter, démonter 3 fois. Combien de jours? 7 jours. Donc 3 fois 7, 21 fois Moshe a monté le temple et l'a démonté. Pour arriver le 8e jour à monter une fois pour toutes le Mishkan. Les Chachamim se posent la question, qu'est-ce qu'il fait? C'est de l'exercice, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Nous disent les Chachamim, quelqu'un qui est capable de monter une shita dans sa vie, de monter une étude dans sa vie, de monter un système de pensée dans sa vie, mais qui est capable de le démonter 3 fois par jour, c'est le seul qui peut arriver à dépasser le temps, c'est-à-dire arriver au chiffre 8, qui lui est déjà au niveau du Shmoné en hébreu Neshama, c'est les mêmes lettres. Si tu ne peux pas démonter ce que tu as monté dans ta vie, si tu n'es pas capable de te réinventer tous les jours, 3 fois par jour, Shacharit, Mincha et Arvit, tu seras incapable de dépasser ton propre petit système à toi. Rabotai, c'est une leçon de vie extraordinaire. Si je veux recevoir une lumière de l'ordre du 8, je dois être capable de dépasser ma propre nature. Or, l'Égypte, c'est la nature. L'Égypte, c'est le temps. Quel est le dieu d'Égypte? Le bélier. le bélier, avant d'être Paro, tout le monde, y compris Paro, va prier le bélier. Pourquoi le bélier? Parce que le bélier, c'est le premier des astres de l'année. À chaque fois que vous commencez l'astrologie, vous commencez par quel signe? Le bélier. Les Chachamim viennent nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Ils nous disent que quoi? Étant donné que le bélier, c'est le roi de tous les astres de l'année, donc c'est le roi du temps. Donc en réalité, comment est-ce que je peux appeler ce bélier qui est le roi du temps, qui est le dieu d'Égypte? Chronos. D'ailleurs, l'Égypte, un petit peu plus après, c'est la Grèce. C'est le même système. Et la Grèce croit dans un dieu qui s'appelle Chronos, c'est-à-dire le dieu du temps. Donc on va prier le temps. Donc on est enfermé dans un système temporel. Écoutez la force de la sortie d'Égypte. Puisque le premier astre est lié au temps, et que cet astre-là, quand est-ce qu'il est le plus fort dans l'année? Le mois de Nissan. C'est son signe. Le mois de Nissan, c'est le signe du bélier. Et quand est-ce que le signe est toujours le plus fort dans le mois? Le 15 du mois, au moment où la lune est pleine. Et Akadosh Baruch Hu vient nous dire, moi, l'Éternel qui transcende les mesures de ce monde, je vais vous faire sortir d'Égypte au moment où leur Dieu à eux, du temps, est le plus dominant. Et quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Le 15 du mois de Nissan, c'est-à-dire au moment où leur Dieu est le plus fort. Et qu'est-ce qu'on a fait avec leur Dieu? On lui a fait un sacrifice et on l'a mangé. Ce que vous mangez aujourd'hui avec le hafikomam, le petit bout de galette, en réalité, qu'est-ce qu'on mangeait du temps du Beit Hamikdash? Le corban du Pessah qui était ni plus ni moins qu'un bélier. Et comment est-ce qu'on le mangeait? Juste on le goûtait. À la sova, on est déjà rassasié, je n'ai plus le droit de rien manger après. Ça veut dire quoi? Regarde ce que j'ai fait de ton bon Dieu qui est le temps. Je lui ai fait la shrita, pas pour le détruire. Quand je fais la shrita à quelqu'un ou à quelque chose, c'est pour le manger. Comme dans la Gemara, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Atid hakadosh baruch hu lishrot et ayet serara. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va faire la shrita ou yetserara. Tous les gens qui ne comprennent pas l'hébreu pensent que c'est pour le détruire. Pas du tout. Quand je fais la shrita, c'est pour manger. Ça veut dire que même dans le yetserara, il y a quelque chose que je dois prendre. Eh bien, dans le temps, il y a effectivement quelque chose que je dois prendre et je dois gagner ça. Deuxième exemple de ce transcendant, c'est la domination du temps sur le pain. Qu'est-ce qu'on mange après ça? De la matza. C'est-à-dire, je ne donne pas au temps la force de dominer le pain que je suis en train de manger. Pourquoi, encore une fois? Pour ne pas que le temps me dirige ma vie, mais que moi, je me serve du temps et je le mange comme j'en ai envie. Et donc, la matza, c'est quoi? C'est défier le temps. Dans la paracha de cette semaine, il y avait un verset incroyable. Vayetse ish. Israéli, ben ha'isha ha'israéli, ou ben ish mitzri. Un homme dont la maman est Israël, juive, et le papa, il est égyptien, il est sorti. Et les chachamim posent la question, mais est-ce qu'il y a ça? Qu'est-ce que ça veut dire, il est sorti? Il était dans sa tente, il est sorti? Regardez la réponse, elle est extraordinaire. Elle va dans le sens de ce que je viens de vous dire. Yatsami parashat lechem apanim. Il est sorti de la paracha du pain qui était dans le Mishkan, le pain de préposition. Vous savez que dans le Mishkan, il y avait 12 pains. Et ces 12 pains, une fois par an, 3 fois par an aux 3 fêtes, qu'est-ce qu'on faisait? On tirait tous les rideaux du Beit HaMikdash et les Kohanim levaient la table avec le pain dessus pour montrer au peuple d'Israël qui était dehors, regardez combien Akadosh Baruch Hu vous aime. En levant la table, tu me montres comment Akadosh Baruch Hu t'aime, qu'est-ce qu'il y a dans cette table? Et bien dans cette table, il y avait 12 pains. Et ces 12 pains, ils avaient un secret. Ils étaient toujours chauds. On les mettait chauds, et une semaine plus tard, on les retirait chauds. Les Kohanim. Les Kohanim. Ah, Giorno, 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 D'ailleurs, c'est Goren et Yekel. Ça vient du mot Goren et Yekel. Goren, c'est le pain, et Yekel, c'est les raisins. Les Chachamim nous disent quelque chose d'incroyable. Kessiduro karsiluko. C'est-à-dire, de la même manière qu'on le peut poser chaud, on le retire chaud. Si je retire un pain chaud après une semaine, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui n'a pas eu d'effet sur lui?
Le temps.
Encore une fois.
C'était de la matière, quand même.
C'était, d'accord? Mais il était chaud quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous montre qu'il défie, lui, toutes les notions de ce monde. Et qu'il dépasse, qu'il transcende. Troisième exemple. Comment est-ce qu'on appelle la fête, justement, de cette sortie des lois de la matière? Pessah. Que veut dire le mot Pessah en hébreu? Non, ça c'est déjà des Pérouchim. L'histoire, c'est passer au-dessus, c'est-à-dire sauter, en hébreu, les Daleg. Sauter sur quoi? Le temps, encore une fois. Et c'est pour ça que la sortie d'Égypte, ça s'appelle Bechipazon. Ça veut dire Bechipazon, avec une vitesse incroyable, extraordinaire, qui ne dépend pas de la normalité de ce monde. Donc Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir en dehors du temps. Il nous a fait montrer que le temps n'avait pas d'emprise sur nous avec la Matza. Et il nous montre trois fois par an que le pain chaud, c'est Israël. Ça veut dire que le peuple d'Israël correspond à une valeur divine qui transcende tous les éléments de ce monde. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, on va voir le premier Israël de l'histoire. Comment il s'appelle le premier Israël de l'histoire? Celui qui a été circoncis à 8 jours, la première fois. Yitzhak. Yitzhak a été le premier à être circoncis à 8 jours. Vous savez pourquoi on fait la Brit Mila à un bébé à 8 jours? Parce que chaque enfant d'Israël, on veut lui montrer qu'il est lié au chiffre 8 et non pas au chiffre 7. Or, en hébreu, le Sheva, vous savez qu'en hébreu, il y a des lettres qui s'intervertissent, Sheva peut se lire aussi Teva, c'est-à-dire le 7, c'est aussi la nature. Or, nous, on relie le bébé au Shmoné, au 8e jour, et on dit, ce jour-là, je te donne le nom. Parce que, avant, ça ne sert à rien, tu es encore un homme naturel. Tu ne nous intéresses pas. Nous, les enfants d'Israël, on est en dehors de la nature. Pourquoi c'est le premier enfant qui a eu la Brit Mila à 8 jours? Parce que sa maman a rigolé. Et pourquoi elle a rigolé, sa maman? Lama Tzachaka. Parce que justement, il est capable de sortir des lois de sa nature. Donc le mot rire en hébreu, c'est tsrok, qui se lit tsrok, sortir des lois de la nature. Donc le tsrok, c'est tseminachok. Le peuple d'Israël est capable de sortir des lois de cette nature. Cette semaine, après la sortie d'Égypte, la mer s'ouvre. Est-ce que vous avez déjà vu la mer s'ouvrir devant un homme, devant un peuple? Ça ne veut rien dire. C'est quoi cette histoire? Et comment est-ce qu'elle s'appelle cette mer? Yam, Souf, on peut lire aussi en hébreu, Sof. C'est-à-dire au moment où tu crois que tout est foutu, que c'est le Sof, Akadosh Baruch Hu te dit, il y a une armée derrière toi, et tu es en face de la mer, eh bien, si tu rentres, toi, peuple d'Israël, tu es capable de transcender la matière, la preuve, c'est que la mer va s'ouvrir. On n'a jamais vu une chose pareille. D'ailleurs, ça correspond à la Brit Mila. C'est la même ouverture. Le peuple d'Israël est le seul peuple dans ce monde qui est capable de sortir d'une situation impossible qui peut être la fin, et on l'a vécu la semaine dernière, dans le Zikaron de Yom HaShoah, on est sorti des fours, et 3 ans plus tard, on a fondé un État. Vous avez vu une chose pareille? Abraham Avinu est sorti de l'Holocauste. Chez lui, ça s'appelait Our Kasdim. Le premier à être entré dans les fours crématoires, c'était Abraham Avinu. Il est sorti, il s'est nettoyé les vêtements et il a continué à marcher. Daniel, on l'a rentré dans une fosse de lion, il est sorti indemne. C'est quoi cette histoire? Tout ça pour nous montrer qu'en réalité, le peuple d'Israël transcende. Maintenant, je vais coller cette transcendance avec l'un des noms d'Hachem. Cette transcendance qui défie le temps, c'est le Shem Havaya, le Yud, le He, le Vav et le He. Et ces Chachamim nous disent, Pourquoi on l'appelle Shem Havaya? Biglash ou Mehave Kol. C'est lui qui donne la vie à tout. Donc il est en dehors, il est au-dessus de tout. Et c'est pour ça que dans les lettres de son nom, tu peux lire Haya, Hove et Ihie. C'est-à-dire le passé, le présent et le futur, il est au-dessus de tout ça. Alors que le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est dans la nature, c'est le Shem Elohim. Et donc, la création du monde, il n'y a que le Shem Elohim qui apparaît. Bereshit, Bara, Elohim, pas le tétragramme. Le tétragramme, on ne le trouve pas dans la création du monde. Pourquoi? Parce que les lois de ce monde, la nature de ce monde, c'est Shem Elohim. Elohim, c'est 86. Le tétragramme, c'est 26. Est-ce qu'il faut que je me sauve de la nature pour atteindre la non-nature? Pas du tout. Le peuple juif, il a la capacité de rester dans la nature et de faire descendre le transcendant dans l'immanent. C'est-à-dire qu'on fait en fait l'accouplement entre le nom du tétragramme, le Yud Kei Vav Kei, et le nom de Elohim. Et les kabbalistes nous disent, alors fais le compte, 26 plus 86, 112. Qu'est-ce que c'est que 112? La Kabbalah nous dit, c'est un nom secret qui s'appelle Yabok. Qu'est-ce que c'est que ce Yabok? C'est pas seulement un endroit qu'on a traversé, en réalité, c'est toutes les traversées de ta vie. Quand tu es cynique dans ta vie, et que tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche, et tu as l'impression que ton système commence à te rendre aigri dans ta vie, c'est parce que tu n'as plus la Emouna que tu peux traverser les choses, que tu peux transcender les choses. Et moi, Kadosh Baruch Hu, je vais t'apprendre à faire le lien entre le transcendant et l'immanent. Le Shem Havaya et le Shem Elohim. Et les deux ensemble, c'est Yabok, ce sont en réalité les lettres de Yaakov qui laissent une seule lettre, c'est le Aïn, qui sont les 70 nations du monde, qui, elles, se trouvent encore dans la nature, alors que Israël est capable de sortir d'Égypte. Donc maintenant, vous avez compris que sortir d'Égypte, c'est pas seulement quitter l'Égypte, c'est sortir des lois de la nature quand celle-ci t'emprisonne. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi le roi de cette prison s'appelle Paro. Comment on dit en hébreu toutes les forces qui tombaient? Les Afria. Donc le mot Paro vient du mot Hafra, un dérangement. Ça veut dire que Paro, ce n'est pas seulement le nom du roi d'Égypte, c'est le nom que portent tous les dérangements que j'ai dans ma vie et qui m'empoisonnent la vie. À chaque fois que tu as un problème dans ta vie, tu as en réalité un Paro, une Hafra, plus ou moins grande, selon ce que tu es. Et si tu ne trouves pas à l'intérieur de toi Rabbi Moshe, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, tu ne pourras jamais sortir de ta propre Égypte et tu resteras enfermé dans ton propre système qui est arrivé à une conclusion qui est néfaste, où tu es en train de mourir tout seul parce que toi-même tu t'es enfermé dans une prison et tu ne peux plus sortir d'elle-même. Donc lorsque Paro dit aux enfants d'Israël, vous ne pouvez pas sortir d'Égypte, c'est pas que je vous enferme. Ce qu'il veut leur dire, c'est que c'est impossible de sortir d'Égypte parce qu'il est impossible de dépasser les lois de cette nature. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il ne reconnaît pas par eux? Le nom de Havaya. Et il le dit, « Lo yadati et yud kevake, vegam et Israël lo achaler. » Moi, je ne connais qu'un seul nom, dit par eux, Elohim. Vous me parlez d'un nom, yud kevake, je ne le connais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je ne le connais pas? Pas je ne l'ai jamais entendu, je ne le reconnais pas. Autrement dit, je ne reconnais pas la possibilité que quelqu'un ait de dépasser, de transcender les lois de la nature. Et d'un coup vient un peuple qui défie toutes ces lois parce qu'Akadosh Baruch Hu l'accompagne et lui permet en réalité de dépasser tout ça. Incroyable, et c'est ça la sortie d'Égypte. Et quand on sort de cette Égypte, c'est-à-dire qu'on est capable de sortir de cette prison, de ce message, de cet emprisonnement, et chacun de nous en réalité, quel est le signe de l'Égypte? Le Nahash. Vous savez que les Égyptiens mettaient les tfilim. Mais à la place du yosher que nous avons dans nos tfilim, ils avaient un serpent au bout. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes symboles. Ils ont les mêmes symboles. Seulement ici, il y a un serpent. Qu'est-ce que c'est que le nahash, ou en hébreu, le nahash, parce qu'il y a une différence. Le nahash, c'est l'animal. Mais le nahash, c'est en réalité le cerveau humain, cartésien, rationnel, qui ne peut pas, le cerveau reptile, qui ne peut pas te laisser transcender en réalité. Et donc en réalité, quand tu es soumis au nachash, tu es soumis à quoi? À la logique humaine qui te bloque dans un système. Ça veut dire que tu as perdu en toi la foi de cette logique qui dépasse la logique, c'est-à-dire le tétragramme. Et donc Akadosh Baruch Hu nous dit que la transformation de ce nachash, qui est en valeur numérique 358, tu l'auras quand tu croiras dans la simcha intérieure, dans l'optimisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Sa mère, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Mashiach, ce n'est pas seulement un bonhomme qui va venir pour nous sauver. C'est quand toi, tu vas vivre dans une simcha intérieure. Si tu es aigri dans ta vie, si tu es triste dans ta vie, si tu ne vis pas ton judaïsme avec une simcha, tu es en réalité tombé dans le piège du nachash, comme le premier homme, qui en réalité, de quoi il est tombé? Par son cerveau reptile qui l'a fait descendre au niveau cartésien. Vient le Rav Kook, Alav HaShalom, et nous dit quelque chose d'extraordinaire considérant la terre d'Israël, et plus précisément Médina d'Israël. Il dit le Rav Kook qu'il n'a jamais vu la Médina, hein, qu'il est mort avant. Et c'est lui qui a appelé Médina d'Israël, avant qu'elle n'existe. Il y avait Eretz Israël, mais pas encore l'État, on est d'accord. Eh bien, il dit dans son livre, Médina d'Israël, Hi Yesod, qui c'est Hashem Ba'olam. C'est le fondement du trône céleste dans ce monde. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, pour s'asseoir, pour s'installer dans ce monde, il va se servir de l'État, pas de la terre. Je vous ai dit tout à l'heure que la terre sans l'État n'a pas les mêmes qualités. S'il n'y a pas une souveraineté juive sur cette terre, c'est une terre, elle a une sainteté, mais on ne l'a pas dévoilée. L'État d'Israël va dévoiler la terre d'Israël, la Kdusha de la terre d'Israël. Bien entendu, on n'est pas encore arrivé, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à arranger, mais on ne voit pas le mal, on voit le bien. La malchut, la royauté que nous sommes en train de faire avancer, elle s'appelle Achot. Et au début de l'année, on commence Achot Ktana. Qu'est-ce que c'est Achot Ktana? Ma petite sœur, Achot Lanu Ktana Veshadaim Ella. Mana c'est la Achotenu, Bayom Sheyedu Barba. Shira Shiri nous dit Shlomo Ameler, quand tu vois une petite fille qui est en réalité comme une petite sœur, mais qui maintenant vous comprenez, c'est la royauté d'Israël, elle n'a pas encore la forme d'une vraie femme. Elle n'a pas encore les membres développés. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu la jettes à la poubelle? Tu dis non, Chas Veshalom. Tu l'aides à grandir, et c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, de faire monter la malchoute pour qu'elle ait le même degré que son mari, pour qu'ils viennent face à face et pour qu'ils s'accouplent, et de cet accouplement va sortir toutes les bénédictions de ce monde. Donc quand tu as un bébé qui fait ses besoins, tu ne vas pas le jeter. Quand des gens ont des problèmes et qu'ils rejettent tout en même temps, il y a un problème de vision, Chas Veshalom. Tu ne peux pas jeter le bébé avec la couche. Tu dois jeter la couche et tu dois faire un discernement, une distinction entre ce qui n'est pas bon et le bébé lui-même. Et c'est comme ça que tu peux faire évoluer toute cette malchoute pour arriver à son but. Alors je résume tout ce que j'ai dit et je termine. Sortir d'Égypte, c'est pas sortir d'un pays. C'est sortir de ton propre système serpentesque qui t'a limité. Tu ne crois plus en toi. On t'a fait croire que tu es incapable depuis que tu es bébé. On t'a dit que tu n'arriveras jamais. Et toi-même, tu as une certaine défaite ou un certain problème. Et tu es tombé dans ce problème et tu te dis, mais jamais je réussirai dans ma vie. Tout est foutu, tout est noir, tout est mauvais. Et tu deviens de plus en plus cynique. Et tu deviens de plus en plus l'inverse de la sympathie, Chas Veshalom. Et les gens, naturellement, s'éloignent de toi. Parce que ce n'est pas sympathique, on a l'impression que c'est contagieux, Chas Veshalom. On a envie d'aller avec des gens heureux. Quand je vois quelqu'un qui rigole tout le temps, tout le monde s'approche de lui. Quand quelqu'un fait la gueule, quand quelqu'un est dur, les gens se sortent. Et en réalité, à qui tu fais en fait ce mal? À toi-même. Tu te fais ce propre mal à toi-même et tu attires de l'univers tout ce qui te ressemble, c'est-à-dire, Chas Veshalom, le mal de l'univers. Alors que quand tu es heureux, tu attires la simcha, tu attires le lendemain, tu attires le Mashiach, tu attires la bracha. Et c'est pas par hasard qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, si tu vois quelqu'un qui est dans la Torah, mais qui est triste, il a un problème le mec. La religion, elle a tué le judaïsme. Les gens sont devenus religieux, ils ont perdu leur nature d'homme. Faut faire très attention, Rabotai, la Torah c'est pas une religion, le judaïsme ce n'est pas une religion. Il faut arrêter de vivre dans cet état de peur, d'angoisse. Tu fais tout parce que tu es petit, tu es étriqué. Je dis à mes élèves avec beaucoup d'humilité, le mois de Elul, ne faites pas tchouva sur des petites choses. Cette année je vais faire un petit peu plus comme ça, je vais faire comme ça. Arrêtez. Tu veux faire tchouva sur quelque chose, fais tchouva sur ta petitesse. Sur ton petit esprit, sur le fait que tu sois étriqué, que tu sois peureux, que tu aies peur de grandir. Il y a des gens qui ont peur de grandir. C'est ça la vraie peur. Alors qu'Akadol Bokhu nous demande d'être grand pour partager le grand. Pas parce que je veux avoir de l'ego. Je veux beaucoup parce que je veux partager beaucoup. Et quand tu veux partager beaucoup, Akadol Bokhu te donne beaucoup. Et c'est ça tout le système de Sfirat HaOmer. On sort de cette prison d'Égypte, mais chaque jour on évolue, chaque jour on monte, chaque jour on est en train de trouver un équilibre. Aujourd'hui, par exemple, on a compté 24 jours, tout à l'heure. Il n'y a même pas un quart d'heure, une demi-heure. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, nous dit les Chachamim, c'est l'équilibre de l'éternité. Tiferet Shebanesach. Extraordinaire, chaque jour il a une finesse en lui, que si tu la décodes, tu vas en réalité fleurir dans ta vie. Et chaque jour, il y a quelque chose à travailler dans ton être. Et si on savait ce secret, il y en a 7 fois 7, parce que c'est toute la nature. On a dit que la nature c'était 7. 7 fois 7. Si tu ne fais pas ce travail dans ta nature, comment tu arriveras au 50e jour qui transcende la nature? Parce que qu'est-ce que c'est que le 50? C'est comme le chiffre 8. Par rapport au 7, c'est le 8. 7 fois 7, 50, c'est au-dessus, c'est comme le 8. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est que le jour de Shavuot? C'est ce qu'on appelle le jubilé. Vous croyez que c'est par hasard que quand on te dit tu jubiles? C'est quoi le jubilé? C'est la grande simcha. C'est le retour vers ton identité, vers ta chérout, ta liberté. On appelle ça Olam Haba, Olma Alma de Chiru, l'endroit, le degré où tu es libre complètement, parce que tu sers. La liberté infinie du béni soit-il. Kadosh Baruch Hu, il est libre. Si j'arrive à vivre avec son degré, il a dit, Betselem Elohim bara et Adam imach, créa son image, c'est-à-dire dans cette liberté totale, pas dans la peur, pas dans l'angoisse, pas dans un judaïsme avec un Dieu qui te punit et qui te frappe. C'est pas du judaïsme, ça. C'est une réplique de la chrétienté, on n'est pas là-dedans. La Kabbalah, elle est là que pour dire une chose, Rabotai. Combien il y a une histoire d'amour entre Akadosh Baruch Hu et nous. Vis ton judaïsme avec ce degré-là, pas avec la peur et avec l'angoisse, ça c'est fait pendant 2000 ans d'exil. Aujourd'hui, nous sommes sur notre terre, il y a beaucoup de difficultés, mais on n'est pas aveugle, on ne dit pas il n'y a rien. Non, il y a des difficultés, mais j'avance. Parce que de ces difficultés-là, je suis en train de grandir. Si vous me montrez un pays dans le monde, un état dans le monde, qui est capable de faire ce qu'on a fait après ce qu'on a passé en 70 ans, dites-le-moi, je ne connais pas. Dans ce monde, on est dans un monde extraordinairement grand où le peuple d'Israël est en train de reprendre sa place parmi les nations. Chachamim nous disent, Rabotai Avtalion, dans Pirkei Avot, Mishna Bet, Chachamim hi Zaharu Bedivrechem. La plupart des gens traduisent « Sage d'Israël, faites attention quand vous parlez. » Manitou ne disait pas ça. Il disait « Mettez du Zohar dans vos paroles. » Rentrez du Zohar dans vos paroles. Quand vous allez rentrer du Zohar dans vos paroles, vous allez rester sur cette terre. Pourquoi? Parce que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle continue à dire? « Shem atachov uchovat galout. » Quelqu'un qui ne rentre pas du Zohar, « Chas v'shalom, la galout, elle commence à lui plaire. » Et il va commencer à réfléchir, à partir, alors qu'en réalité le Zohar, c'est la terre d'Israël, c'est la Torah des secrets. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était le plus grand Léoumi Dati que je connaisse. C'était lui qui voulait fonder l'État d'Israël dans la révolte de Bar Kokhba. C'était pourquoi cette révolte? C'était pour fonder l'État d'Israël. Cette révolte a échoué. Aujourd'hui, Baruch HaShem, on a réussi ce qu'ils ont échoué à l'époque. Moi, aujourd'hui, je considère, mais je ne suis pas posek halakha, qu'on n'a plus besoin d'avoir peur de se raser pendant la période du Homer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà corrigé tout le système qui a échoué à cette époque-là. On est complètement dans une autre période. Mais il faut encore un Sanhedrin pour changer ces halakhot, il faut du courage. Be'ezrat HaShem, nous sommes dans une évolution permanente. La malchoute est en train de grandir, elle est en train de devenir femme. Et nous, nous avons une seule chose à faire en fait avec cette femme-là. C'est l'embellir, la préparer, la choyer, lui acheter des beaux vêtements, de beaux bijoux, la parer, la maquiller pour que Akadosh Baruch Hu ait envie d'être avec elle. Et les Chachamim nous disent, quand tu fais ça et que tu rends la malchoute belle, quand Akadosh Baruch Hu s'unit avec elle, il lui demande qui c'est qui t'a fait aussi belle, et elle désigne les gens en bas qui lui ont donné tout ce kavod, et eux reçoivent la bracha à leur tour. Akadosh Baruch Hu, par le mérite de Rabbi Moshe, qui se trouve ici, au moment où je suis en train de vous parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez que dans le monde parallèle, le temps n'existe pas. Nous, on a l'impression, le matin, l'après-midi, le soir, ça c'est pour nous. De l'autre côté, il n'y a pas ce genre de notion de temps. C'est pour ça que je pose des fois des questions pièges à mes élèves. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah? Alors chacun me donne une date. Mais c'est faux, c'est au présent, il est en train de la donner. Baruch Ata Hashem Noten la Torah. C'est au présent, il n'y a pas de temps. Seulement nous, un jour, dans notre histoire, on a été capable d'être à la hauteur pour l'entendre. Yachmar. Mais en réalité, si tu étais capable, à chaque instant, tu devrais l'entendre. Parce que lui, il la donne à chaque instant. Donc, Be'ezrat HaShem, qu'on soit à ce niveau-là, qu'on s'ouvre, et il ne faut rien faire d'autre que s'ouvrir. Laissez-le vous traverser. Arrêtez de vous battre. Quand vous êtes comme une pierre, vous ne pouvez pas flotter, vous sombrez dans l'eau. Quand vous lâchez prise, vous flottez. Et c'est ça la force du Am Israël, c'est de lâcher prise et de laisser l'infini béni soit-il nous traverser pour la grande lumière et d'Israël et du monde tout entier. Tehé nishmato tsura b'tsura chayim. Ken.